Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.
Quelles recherches mènent les chercheurs de l'UBO? Pourquoi écrivent-ils des articles et des livres? Comment le font-ils? Quel est l'intérêt de ce travail pour leur science et ou pour la société? Quand le développement d'un projet économique implique des pertes écologiques, réduction de la biodiversité, atteinte au climat, dégradation d'un service écosystémique, les promoteurs de ce projet peuvent mettre en place des mesures compensatoires générant des gains écologiques équivalents aux pertes. Ainsi, par exemple, la destruction d'un écosystème peut être compensée par la restauration d'un autre écosystème. Comment cela fonctionne-t-il? Quels sont les acteurs impliqués? Quels sont les enjeux de la compensation écologique? Pour en débattre, nous recevons aujourd'hui Pierre Semama, économiste à l'IFREMER et au laboratoire AMUR, qui veut dire aménagement des usages, des ressources et des espaces marins et littoraux. Bonjour Pierre Semama.
Bonjour Hervé.
Pourriez-vous vous présenter votre parcours, votre spécialité et vos recherches actuelles?
Oui, alors je suis chercheur économiste à l'IFREMER au sein du laboratoire AMUR. Avant ça, j'ai une formation d'ingénieur agronome, donc plutôt orienté sur les problématiques d'écologie et de biologie. J'ai choisi de me spécialiser dans les problématiques de développement durable et j'ai un peu pris conscience qu'il fallait s'intéresser aux problématiques d'économie. C'est pour ça que je me suis spécialisé en sciences économiques par le doctorat que j'ai effectué aussi à l'IFREMER sur le sujet de la restauration écologique et notamment de la compensation écologique. Aujourd'hui, je travaille à l'IFREMER sur l'évaluation des politiques de conservation des écosystèmes marins.
Vous avez publié avec trois autres économistes un article intitulé « L'économie néo-institutionnelle comme cadre de recherche pour questionner l'efficacité de la compensation écologique ». Pourriez-vous définir, dans un premier temps, rapidement, ce que c'est la compensation écologique?
Oui, alors la compensation, c'est la troisième étape de la séquence « éviter, réduire et compenser » à laquelle est soumise tout projet d'aménagement. Les développeurs doivent d'abord s'engager à éviter les impacts, ensuite à réduire les impacts qui ne peuvent pas être évités, et en troisième lieu, à compenser les impacts résiduels. Et cette compensation est évaluée sur une base d'équivalence entre les pertes résiduelles et les gains liés à la mesure compensatoire.
D'accord. Vous proposez deux cadres d'analyse. Le premier cadre que vous présentez pour discuter de l'efficacité de la compensation est celui de l'économie de l'environnement. Son intérêt donc est d'attribuer un coût à une perte écologique occasionnée par un projet de développement. Cela permet entre autres de prendre en compte des coûts et de les intégrer dans celui du projet de développement. Parce que dans le cas contraire, cette perte aurait le statut d'externalité, donc une notion largement utilisée par les économistes. Pourriez-vous définir les principes qui permettent d'estimer le montant d'une perte écologique, parce que ça ne doit pas être évident, dans le cadre d'analyse de l'économie de l'environnement, et d'autre part, de préciser cette notion très intéressante d'externalité, donc qui est largement utilisée en économie.
Oui, donc... L'externalité, en fait, c'est le fait que l'activité d'un agent peut avoir des conséquences sur le bien-être d'autres agents sans que ces conséquences fassent l'objet d'une compensation, c'est-à-dire sans que l'un paye et l'autre reçoive un dédommagement. Ces externalités peuvent être négatives lors d'une pollution. Une usine va rejeter des produits chimiques dans la rivière et ça va impacter le bien-être des usagers en aval. Mais ça pourrait être aussi des impacts, des externalités positives, par exemple avec l'agriculture biologique permettant d'accueillir sur les parcelles agricoles une faune de la biodiversité, etc.
D'accord, oui. Quand on parle d'agents, on parle d'agents économiques, en fait, quand on parle de personnes victimes d'une pollution. Et si ce qu'ils affrontent reste à l'état d'externalité, c'est pas compté, tout simplement.
Voilà, et donc tout l'enjeu de l'économiste de l'environnement, c'est d'évaluer ces externalités pour que le coût de l'activité soit en fait le coût corresponde au coût réel subi par la société dans son ensemble, c'est-à-dire par tous les agents qui subissent les externalités liées à cette activité.
Vous pourriez donner quelques éléments de chiffrage d'un coût dans ce cadre d'analyse, par exemple l'implantation, je ne sais pas moi, d'une grande surface, d'un grand magasin, là où il y a une zone humide avec des hérons, des grenouilles, etc. Comment on procède pour définir ce coût ?
Donc, on va aller sur l'évaluation des services écosystémiques, là, l'évaluation monétaire, pour laquelle on a plusieurs méthodes. Ce qui est important, c'est d'abord d'avoir à l'esprit qu'il existe plusieurs catégories de services écosystémiques et qui définissent en fait les différents rapports qu'entretient la société avec les écosystèmes. Il y a des services de prélèvement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller récupérer dans les écosystèmes des biens, donc c'est-à-dire la pêche, couper des arbres. Et on peut exploiter, prélever ces biens-là en respectant le renouvellement des écosystèmes, le renouvellement des stocks de poissons, le renouvellement de la forêt. Il y a aussi des services dits de régulation. C'est tous les processus de fonctionnement de l'écosystème qui vont être capables de stocker, de traiter, d'être résilient à des pollutions qu'on peut émettre dans le milieu. Donc on va parler de régulation de la qualité de l'eau, régulation de la qualité de l'air. On peut parler aussi de régulation des nuisances sonores.
D'accord. Et dès lors qu'on parle de services écosystémiques, c'est chiffrable, c'est ça, hein. On est capable d'attribuer un chiffre à ces services. Enfin, en tout cas, on tente de le faire.
On peut essayer de le faire, voilà. Donc, pour ces services de prélèvement, on peut aller regarder le prix sur le marché d'un arbre coupé,
vendu. Ouais, c'est ça, ouais. Le problème, en fait, qui arrive, c'est que d'abord, ça ne satisfait pas forcément les gens qui sont impactés. Et d'autre part, on voit bien que le coût d'un service écosystémique est forcément fait à la louche, voire à la pelleteuse. Et donc, les chercheurs qui s'intéressent à la, enfin les chercheurs les, ou les ingénieurs qui s'intéressent à la compensation écologique ont imaginé aussi une autre façon d'évaluer une compensation qui est d'évaluer des équivalences avec des critères biophysiques. C'est bien ça, oui.
Voilà, c'est ça. Donc c'est cette évaluation monétaire qui est en fait le prisme utilisé par l'économie de l'environnement, c'est-à-dire que l'équivalence entre la mesure compensatoire et les pertes liées au projet vont être évaluées en valeur monétaire. On va évaluer d'un côté les coûts, la perte de la zone humide, et d'autre part, les bénéfices qui sont liés à la restauration d'une zone humide et faire attention à ce que cette équivalence soit en valeur. Comme vous l'avez dit, il y a plein de limites méthodologiques, épistémologiques ou opérationnelles à cette évaluation. Et donc, la compensation écologique défend que cette équivalence ne soit pas monétarisée, mais définie par des critères biophysiques, donc c'est-à-dire des indicateurs de qualité écologique entre, d'un côté, l'écosystème détruit et l'écosystème recréé comme mesure compensatoire.
D'accord. Et à partir de là, donc c'est ce que dit votre article, à partir de là, l'économie d'environnement qui fonctionne sur l'idée de marché et de coût perd de sa puissance pour analyser ce qui se passe. Et c'est pourquoi vous préconisez, à la suite d'autres, avec d'autres, de vous référer donc à l'économie néo-institutionnelle. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il faut préciser qu'est-ce qui change dans ce cadre d'analyse pour penser la compensation écologique.
Donc oui, en fait, c'est pas tant que l'économie de l'environnement n'est pas un bon prisme, c'est-à-dire qu'en fait que la question ne se pose plus en matière en des termes économiques. La question de l'efficacité des mesures compensatoires, en fait, ça devient à étudier les conditions écologiques, sociales et politiques dans lesquelles les objectifs d'équivalence vont être définis. Et donc tout ça, c'est un jeu de construction de politiques publiques, d'établissement de conventions pour la définition de critères écologiques. Et là-dessus, l'économie de l'environnement n'est pas compétente. L'économie néo-institutionnelle, elle, elle s'intéresse à l'organisation des transactions, l'organisation des échanges.
Ça met en lumière les acteurs qui sont concernés et la façon dont ils s'articulent pour avancer, c'est ça ?
Voilà. Elle s'intéresse aux relations entre les acteurs pris comme des échanges économiques, des échanges de biens et de services qui peuvent avoir lieu sur des marchés, comme le préconise l'économie de l'environnement, pardon, ou dans d'autres modes d'organisation, comme l'entreprise, à travers de la contractualisation, et donc s'intéresser à l'efficacité de différents modes d'organisation d'un problème. Ici, celui de la création de mesures compensatoires.
Pour aller plus loin, on va prendre un exemple. Mais peut-être avant de prendre l'exemple, peut-être une précision encore. Pour définir des équivalences biophysiques de systèmes écologiques, un détruit, l'autre qui serait un substitut, il faut des compétences en physique, en biologie. Pourriez définir un peu plus le type de compétences qu'il faut trouver chez quelqu'un qui peut définir de ce type d'équivalence.
Donc, les entreprises qui vont s'occuper de la mise en place des mesures compensatoires sont en fait des entreprises d'ingénierie écologique, donc qui regroupent des compétences en biologie, en écologie, et après, selon les milieux, effectivement, en pédologie, si on est sur des milieux terrestres.
Pédologie, c'est l'étude du sol.
L'étude du sol, pardon. En hydrologie pour les milieux aquatiques, en océanologie ou en écologie marine pour les écosystèmes marins. Puisqu'en fait, les critères d'efficacité sont basés sur des indicateurs liés à ces disciplines, que ces disciplines doivent pouvoir produire.
Ça doit être des experts, des ingénieurs qui sont capables alors de définir des dynamiques écologiques, des niveaux d'échelle aussi. Ça a l'air assez complexe, en fait.
Mais c'est tout l'enjeu, c'est de définir ces indicateurs et ensuite d'être capable de les mesurer, de les suivre. Et ensuite, dernière difficulté, de pouvoir atteindre ces niveaux, des niveaux de performance écologique sur les mesures concrètes, c'est-à-dire à restaurer un écosystème de façon à atteindre un objectif donné. Et ça, est-ce qu'on arrive à le faire ? Pas toujours.
Oui, c'est ça, c'est l'objectif ou les seuils, vous parliez de seuils tout à l'heure, qui est difficile à définir. Pour vraiment aller au fond du sujet, on va prendre un exemple, ça permettra de voir plus clair. On va commencer peut-être par... parce que dans votre article, en fait, vous prenez un exemple, tout simplement, ça me vient de votre article, vous appliquez votre analyse néo-institutionnelle de la compensation écologique aux États-Unis. Donc, pourriez-vous décrire dans les grandes lignes, on a du temps, hein, la politique mise en place aux États-Unis, et notamment pour prendre en compte le long terme, parce que bon, qui dit système écologique pense long terme.
Donc, dans notre article, on s'intéresse au cas spécifique de la compensation des zones humides aux États-Unis. Donc, ce cadre, il a émergé dans les années 70. Sur le même modèle que la France, hein, une séquence éviter, réduire, compenser, avec une compensation dite permittee responsible, c'est-à-dire que c'est l'aménageur qui doit mettre en place la mesure de compensation. C'est exactement le cas.
Par exemple, qui construit son centre commercial, qui doit mettre en place la compensation.
Voilà,
c'est le point de départ.
Ouais. Ça, c'est le point de départ. C'est le même qu'en France. Sauf qu'il y a eu de nombreux rapports qui ont montré que ce système était complètement inefficace, que malgré cette obligation de compensation, les mesures étaient soit pas mises en œuvre, soit inefficaces.
C'est-à-dire que... Soit sous-évalué peut-être aussi.
De mauvaise qualité. Les mesures compensatoires étaient de mauvaise qualité.
Parce que si c'est celui qui pollue qui chiffre sa pollution.
Donc en fait, il est censé être contrôlé par le régulateur. Et c'était un des problèmes mis en avant. C'est-à-dire que ça demandait trop... C'était trop de travail pour les régulateurs d'aller surveiller l'ensemble des mesures compensatoires. Donc en fait, on a rejeté l'échec de la compensation sur ce système très command and control. Le régulateur doit contrôler chaque compensation. Et on a promu un nouveau système, le système des banques de compensation.
D'accord.
Alors, il faut entendre banque comme une banque de données, une réserve. C'est pas un établissement bancaire. C'est un acteur d'ingénierie écologique qui va investir dans la restauration écologique. Donc,
qui est privé ou public, lui ?
Il peut être privé, il peut être public pour certains projets publics, mais généralement privé, c'est un tiers.
D'accord.
Expert en ingénierie écologique. Et lui, il va restaurer de grandes surfaces de zones humides et pouvoir produire des gains de compensation et les vendre à plusieurs développeurs dans un périmètre donné.
D'accord. Donc, il engage des chantiers en avance sur de la restauration écologique. Et ensuite, face à quelqu'un qui vient, par exemple, de construire une zone commerciale qui a écrasé une zone humide, il propose quoi alors ?
Des crédits de compensation.
Des crédits de compensation, d'accord.
Qui lui ont été attribués par le régulateur. Et en fait, le régulateur, au lieu de contrôler...
Le régulateur, c'est l'État. Là.
C'est l'État.
L'État définit des crédits pour des dégâts, enfin pour des...
Voilà, il y a différents systèmes d'équivalence en fonction de grands types de zones humides. Des lacs vont avoir des crédits qui vont être différents des rivières, des estuaires.
Donc ils sont préestimés en fait.
Voilà.
D'accord, ok, d'accord. Et là, donc, il y a une banque de compensation qui n'est pas une banque, mais qui est de l'ingénierie écologique, qui entretient des zones. Mais alors, ça veut dire aussi que on peut polluer un endroit, on peut polluer, je sais pas, en Bretagne, je sais pas, moi, le bord de la mer, et restaurer ailleurs. Restaurer dans le sud de la France, par exemple, quelque chose.
Vous pointez une des limites de ce système-là, en tout cas un des points d'attention. Dans le cadre du système américain, pour chaque banque est attribuée ce qu'on appelle une aire de service. C'est un territoire limité.
C'est l'État qui attribue ces aires de service.
Oui, qui définit ça. Alors, c'est défini selon des critères hydrologiques de bassin versant, c'est-à-dire que la zone humide ne doit pas être dans un autre bassin versant.
C'est lié au territoire. C'est sur un territoire national.
Là, on est sur du territoire lié. Alors, c'est à l'échelle d'un comté, donc c'est ça peut aller. Ce serait l'équivalent d'un département, peut-être.
D'accord. Ok. Ok.
Et donc il y aurait de la migration quand même au sein du département et on voit qu'on rentre quand même dans une logique un peu marchande puisque ces investisseurs, ces entreprises d'ingénierie écologique vont plutôt restaurer là où le foncier est moins cher, acquérir du foncier pas cher, donc plutôt hors des villes, des villes, alors que les impacts vont plutôt avoir tendance à être proche des villes. Et donc, les gens qui subissent les impacts ne sont pas les mêmes que ceux qui profitent de la mesure compensatoire.
Voilà, il y a encore là le biais de l'argent. Enfin, en tout cas, la mesure de l'argent est importante, malgré tout, même si on reste sur des compensations entre systèmes écologiques. Est-ce que vous pourriez dire ce qu'apporte ce système de compensation par des banques de compensation par rapport à... un système où on s'en tiendrait à évaluer une perte et compenser en valeur financière cette perte.
Et la compenser en valeur financière ? Donc on reste... alors là, on est sur c'est un peu une question de paradigme, c'est-à-dire que dans un cas, on autorise la substitution du capital naturel par du capital financier.
Ça te permet de polluer ?
C'est acheter son permis de polluer. Dans le cadre de la compensation dite écologique, donc dans ce cas-là, la compensation est biophysique, et on est dans de la substitution au sein du capital naturel. C'est-à-dire qu'on va rester sur des questions d'arbitrage entre différentes visions de l'écosystème, mais essayer de maintenir notre capital naturel constant. On peut aussi voir ça avec une idée de droit à polluer, sauf qu'on ne l'achète pas, on achète une mesure qui permet de soigner le dommage qu'on fait.
D'accord. Et toujours dans le domaine écologie, le long terme a son importance. Comment ça se passe, là, quand une banque de compensation prend en charge donc, une zone qu'elle restaure? Est-ce qu'elle s'engage sur le temps, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans et ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, quels sont les droits de propriété liés à cette zone restaurée, ouais.
Donc, aux États-Unis, toute banque de compensation voit s'appliquer ce qu'on appelle le conservation easement. C'est une servitude environnementale qui prive... pour ad vitam aeternam, la zone de tout droit d'usage qui pourrait impacter l'écosystème présent.
D'accord, à la zone est attachée à une servitude.
Voilà.
Une servitude écologique.
Une servitude environnementale, oui.
Environnementale, oui. Mm. D'accord. Maintenant, si on revient vers la France, on voit un peu ce qui se passe aux États-Unis. Bon, c'est un peu rapide, mais on voit un paysage, on voit un montage institutionnel. Comment peut-être à partir de là dire comment ça se passe en France. Donc, voilà, pourriez-vous dire comment la question de la compensation écologique est prise est menée en France?
Alors, en France aussi, hein, la compensation, ça existe depuis les années 70, mais il y a eu un réel rebond avec la loi de 2016, pour la loi pour la reconquête de la biodiversité, où la compensation est devenue obligatoire dans tous les cas, et où la compensation s'est vue évaluée sur des obligations de résultat. Donc il y a eu un renforcement de la compensation à cette occasion.
Obligation de résultat sur quoi, là ?
Sur l'efficacité des mesures.
L'efficacité des mesures mises en œuvre.
Ouais. Voilà.
Les mesures sont mises en œuvre par celui qui pollue, c'est ça ?
Oui, alors c'est ça. En France, donc c'est là que l'économie institutionnelle est intéressante. Elle va nous permettre d'étudier quels ont été les mécanismes, les innovations institutionnelles qui ont permis l'émergence d'un nouveau système de gouvernance, celui des banques. Et notamment, il y en a une qui est majeure, c'est le transfert de la responsabilité aux États-Unis. À partir du moment où on a recours à l'achat de crédits de compensation auprès d'une banque de compensation, on n'est plus responsable du succès ou de l'échec de la compensation. C'est la banque qui devient responsable de l'efficacité. En France, ce transfert de responsabilité n'existe pas. Donc il y a quelques opérations qui existent, dites de compensation par l'offre, hein, qui sont, mais comme on n'aime pas en France certains termes qui sont trop marchands, on ne parle pas de banque de compensation, mais de compensation par l'offre, mais c'est la même idée. C'est la même idée.
C'est-à-dire compensation par l'offre d'un service écosystémique, enfin,
par l'offre de
d'une
crédit
restauration
de compensation.
Ailleurs. Ouais, d'accord.
Sauf que... donc il n'y a pas ce transfert de responsabilité, ce qui est, d'après moi, un objet. Voilà, c'est un obstacle majeur à l'explosion de ce système, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment... Il y a un transfert... très très important vers ce mode de gouvernance des mesures compensatoires.
Donc pour vous, pour améliorer le système français, il faudrait déjà transférer la responsabilité et peut-être aller vers ce que font les Américains ou faire évoluer aussi le système américain.
On en a pas parlé, mais ce problème de les banques de compensation ont un avantage en termes d'efficacité du contrôle. Elles ont permis en fait que les mesures de compensatoire soient effectives, mais en contrepartie, on a une perte de la qualité de l'exigence environnementale. On a dû ce système de crédit de compensation fait qu'on doit diminuer. Un peu standardiser nos critères écologiques et donc perdre en spécificité des mesures compensatoires. Chaque mesure compensatoire doit correspondre exactement à son impact. Aujourd'hui, dans le cadre des banques de compensation, une banque de compensation doit pouvoir compenser plusieurs impacts différents. Donc forcément, oui, avoir un critère un peu plus lâche au niveau de la définition de l'équivalence écologique.
Parce qu'un système est écologique et par nature spécifique, c'est ça ?
C'est ça.
Bon, là, on voit deux systèmes. Enfin, on a été un peu rapidement sur les faits, mais comment vous verriez-vous une amélioration de l'un ou de l'autre, ou des deux? Quelles seraient les grandes directions à prendre, peut-être en termes institutionnels, de responsabilité d'État, voire d'organisation internationale, pour aller plus loin sur la compensation effective, réelle, qui ne serait pas un droit à polluer et qui garantirait un minimum de un minimum vital écologique.
L'efficacité du système de la compensation écologique, en fait, elle n'est liée qu'aux moyens qu'on est prêt à mettre pour contrôler cette efficacité et à l'ambition qu'on se donne.
D'accord, le point, c'est le contrôle.
Voilà, si demain, on se donne les moyens de contrôler efficacement toutes ces mesures de compensation avec des critères d'équivalence sévères, on aura un bon système. Aujourd'hui, on veut renforcer les mesures compensatoires sans pour autant augmenter les budgets du ministère de l'Environnement. Donc on se retrouve avec des agents de l'État qui doivent contrôler de plus en plus d'actions avec de moins en moins de moyens.
D'accord.
Donc ça, c'est un obstacle évident.
D'accord. Dans ce cadre, maintenant qu'on comprend mieux sur la compensation, est-ce que vous pourriez décrire le système des compensations de carbone parce que les entreprises peuvent s'acheter des droits, je crois. Est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus? Ça nous permettrait peut-être de voir encore plus clairement la notion de compensation, parce que là, on est encore dans la compensation.
Alors oui, on est dans un système dit de cap and trade, c'est-à-dire qu'on fixe un seuil maximal d'émissions et trade au sein duquel on peut s'échanger, on peut faire des échanges, c'est-à-dire qu'on a un objectif d'émission totale dont on partage des quotas entre les entreprises, et ces quotas peuvent être échangés entre les entreprises, c'est-à-dire celles qui polluent plus peuvent acheter des quotas des émissions non rejetées aux autres entreprises.
Ça, elles achètent à des entreprises qui ont des droits aussi.
Voilà.
Et comment ces droits sont attribués, hein?
De manière historique. C'est-à-dire c'est suivant ce qui avait été émis auparavant.
Il y a eu un partage au départ.
Voilà. Et une fois qu'on a dépassé ce quota global, qu'il n'est plus possible d'aller sur le marché des quotas, acheter des quotas à d'autres entreprises, on doit mettre en place des mesures de compensation. Et donc là, c'est aller réaliser des mesures. Alors, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais aller réaliser des mesures compensatoires dans des... Oui. Il y a un certain nombre de critères. Mais c'est pareil. Et là, on est sur vraiment un mécanisme de marché, hein, c'est-à-dire que l'idée des banques de compensation, elle est exactement, et le problème est exactement lié à ce qui se passe dans le cadre du carbone, c'est-à-dire que le carbone, c'est une unité, le CO2, qui permet en fait une équivalence pour tous les gaz à effet de serre. C'est assez simple. Dans le cadre de la biodiversité, on n'a pas une unité qui nous permette de définir l'intégralité des écosystèmes. En fait, on est obligé d'aller vers des spécificités au sein des zones humides, entre les zones humides, les montagnes, les forêts, les écosystèmes marins, et au sein de chacun de ces écosystèmes, peut-être même descendre encore plus précisément jusqu'à arriver à se dire que chaque mare est unique. Et oui. Donc,
en tout cas, chaque espèce peut être unique.
C'est ça, chaque espèce, chaque individu peut être une espèce.
Ouais, même s'il disparaît, il y a un monde qui disparaît. Eh bien, merci. Alors peut-être, petit rappel du titre de votre article et de la revue dans laquelle il a été publié, parce que la bibliothèque universitaire de l'UBO possède la revue, enfin, on donne accès à cette revue. Donc vous pouvez rappeler le... Ah, c'est des questions imprévues. Vous ne l'avez pas. Bon, alors moi je peux le dire, il suffit de taper dans Cairn. Je l'ai trouvé dans Cairn. Pierre Simama. Simama, c'est S-C-E-M-A-M-A. Et il faut taper compensation écologique.
Et là, il y a deux articles. Nature, science, société.
Nature, science, société, donc disponible dans les bibliothèques universitaires. On est un peu sorti du cadre prévu de l'émission. Merci, merci à Pierre Semama, donc économiste à Ifremer et au laboratoire AMUR, hein, aménagement des usages, des ressources et des espaces marins et littoraux. Lors de notre prochain rendez-vous, dans le cadre de Un pas de côté, nous recevrons Michael Lavenne, juriste donc à l'UBO aussi, chercheur au LabLex, qui nous présentera une bande dessinée d'Étienne Davodeau et Bedouin Colomba. Cher pays de notre enfance, enquête sur les années de plomb de la République, Paris, Futuropolis 2015. Pour être plus précis, ça parle du SAC, le service d'action civique, qui a travaillé au service de De Gaulle, mais aussi au service d'autres causes.
Je l'ai, c'est passionnant.
Voilà, c'est un livre passionnant. Merci Pierre.
Le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Histoire de ma recherche.